voix nue. Cette semaine, Alban Penaranda rencontre Marie-Josée Malice. Ce soir, croire au théâtre.
Bonjour Marie-Josée Malice.
Bonjour.
Nous sommes, selon vous, dans un moment, voire une époque, compliquée pour le théâtre. Comment décririez-vous ce qu'est le temps présent pour le théâtre et le temps présent du théâtre ?
Je crois que j'ai écrit ça il y a quelques années. Parce que aujourd'hui, je dirais que, bien sûr, c'est compliqué sur le plan économique. Hein, mais je dirais que pour ce qui est du retour d'une nécessité et d'une relation qui serait construite et par les artistes, mais aussi par les spectateurs, sorte de regain comme ça, de désir et de positionnement, je crois que l'époque est plutôt fertile, elle est redevenue fertile. Bon, le théâtre, pour moi, il est toujours symétrique à la situation de la politique, en fait. Quand il n'y a pas de politique, il n'y a pas beaucoup de théâtre. Quand la politique se remet à bouger, le théâtre se remet à bouger aussi. Et aujourd'hui, on voit beaucoup de jeunes revenir vers le théâtre qui, d'abord, apprécient tout simplement la question de la présence, en fait. Le fait que, voilà, il y a ce phénomène, cet événement d'une présence partagée. Mais aussi apprécient le théâtre et découvrent que c'est une puissance d'expression, une puissance d'adresse, en fait. Une possibilité de s'adresser à son époque, à des gens qui sont là. Inégalé. Finalement, le cinéma ne s'adresse pas à ses spectateurs. Le cinéma propose un monde, enfin, en fait, mais ne met pas en mouvement, comme ça, la question de discuter ensemble ou d'examiner ensemble une question. Et donc, je dirais que, c'est compliqué, ça se reconstruit. Je pense qu'on est en train aussi de réinventer des rituels théâtraux. Par exemple, en ce moment, au Théâtre de la Commune, se joue une pièce d'actualité où l'artiste Marion Sieffer propose la combinaison entre quelque chose qui se joue sur scène et qui est transmis en direct sur Instagram. Donc, on invente de nouveaux rituels. Moi, j'en invente aussi. De nouvelles manières de faire venir les gens, de les convoquer, de distribuer les places. Qui doit être sur scène? Qui écoute? Qu'est-ce qu'on fait là? C'est encore un peu confus, c'est balbutiant, mais c'est très passionnant. Et je pense que ça va de pair avec la politique, comme je le disais. Aujourd'hui, les gens ne sont plus tellement d'accord pour la représentation politique traditionnelle, pour être représentés, pour que des gens parlent à leur place. Et au théâtre, on sent ces effets-là aussi. Les gens veulent aussi aller sur le plateau, parler pour eux-mêmes, par eux-mêmes. Ce sont de très bonnes nouvelles, en fait.
Et à partir de ce constat, quel est l'avenir, selon vous, des centres dramatiques nationaux? Leur mission devrait-elle être redéfinie? Leur rôle et leur mode de fonctionnement doivent-ils être repensés?
Ça a été mon credo. Quand j'étais présidente du syndicat des théâtres publics, je pensais qu'il fallait entamer ce que j'appelais un acte 2 de la décentralisation. Bon, je l'avais décider cette expression avant qu'elle ne soit reprise. Je pensais en effet qu'il fallait faire une sorte d'aggiornamento. Maintenant, je ne veux plus parler au nom de tous. Ce que je peux dire, c'est que nous, au Théâtre de la Commune, on vit une expérience extraordinaire. Hein. Elle est compliquée, mais elle génère des grâces et des réussites à la hauteur de ses complications. Après tout, voilà, on prend le risque, on est vivant, hein, on prend le risque de transformer un peu les choses. Et ce que j'en tire, ce que je vois, c'est qu'on fait un théâtre très situé, très très situé, qui s'adresse à sa population, qui part de sa population, qui travaille avec la population, qui recueille les aspirations, les pensées de la population. Donc le fait que l'adresse du théâtre, le fait que le théâtre se fasse ici et maintenant, pour qui se fait-il, comment s'adresse-t-il aux gens qui l'environnent, ça, à mon avis, c'est l'avenir du théâtre. Ça a été aussi toujours ce qui a permis à l'art de se régénérer. Par exemple, si on prend Brecht, c'est ça, Brecht. C'est quelqu'un qui a décidé tout d'un coup de faire du théâtre avec les ouvriers, pour les ouvriers, etc. Donc ça, c'est la première chose que je dirais. Il faut resituer le théâtre, le remettre comme ça, en partage, mais sérieux, hein, pas paternaliste avec la population. Puis la deuxième chose que je retire du Théâtre de la Commune, c'est la collégialité, la pairie, l'amitié entre artistes. Nous, au Théâtre de la Commune, je crois qu'on est un des rares théâtres où désormais la question de l'orientation de ce théâtre, sa direction, est partagée quasiment, enfin, le plus loin qu'on peut, en fait, avec les artistes associés. Les jeunes se sont appropriés ce théâtre, les jeunes artistes. Ils y viennent, ils y créent. Ils n'ont pas besoin de moi, en fait. Ils se discutent entre eux, ils proposent des choses à faire dans ce théâtre, au titre de la programmation, etc. Ça se fait sans moi. C'est formidable. C'est comme une énergie, une sorte de centrifugeuse entièrement portée par l'amitié artistique. Alors pour moi, ça aussi, c'est un ferment d'avenir, repartir avec la confrérie.
Il y a quelques années, vous disiez que la mise en scène ne vous intéressait pas beaucoup, que vous n'étiez pas sûr de savoir faire de la mise en scène. Était-ce une provocation, une posture, voire une coquetterie, ou bien une manière de dire le moment où en est le théâtre, où nous, auteurs, metteurs en scène, comédiens et publics, nous en sommes du théâtre, au fond une manière de dire une impossibilité de la mise en scène?
Non. C'était vraiment fidèle à un texte de Vitesse, un très très beau texte de Vitesse qu'il a écrit en 85, où il explique à quel moment il a cessé, selon lui, d'être un artiste. C'est un texte magnifique, bouleversant. Et il dit « J'ai cessé d'être un vrai inventeur quand j'ai perdu l'art du jeu de l'acteur. Quand je me suis mis à faire de la mise en scène, j'ai cessé d'être un créateur. » Donc c'était une déclaration plutôt assez orgueilleuse de ma part. Si on comprend ce que dit Vitesse, c'est qu'au fond, à partir du moment où il a cessé d'inventer avec ses acteurs une manière de jouer, il s'est réfugié dans ce qu'on appelle la mise en scène, à savoir le décor, les costumes, les effets scéniques. Mais pour lui, disait-il, c'était comme une solution par défaut, parce qu'il avait perdu la capacité explosive, incandescente, qui passe uniquement par les acteurs. Moi, je n'ai pas grand mérite, hein, je ne sais faire que ça en fait. Je me mets dans la salle et sitôt qu'un acteur se met à bouger et à parler, je suis absolument fascinée par lui. Et donc je crée des espaces qui ne servent qu'à exaucer le jeu de l'acteur. Donc j'allume le théâtre, j'allume la salle, je prononce qu'on est là tous ensemble pour regarder ce qu'un acteur vient faire. En dehors de ça, il n'y a pas grand-chose. Mais c'est d'une intensité extraordinaire, tous les détails de vérité, tous les événements que suscite un acteur. Donc c'est pourquoi je revendique en effet quelque chose qui s'est un peu perdu. Je revendique d'être directrice d'acteur et beaucoup moins metteur en scène en fait.
La direction d'acteur, c'est un transfert de pensée, c'est ce que vous dites. C'est quoi ce transfert et comment s'opère-t-il?
Quand un acteur commence à dire un texte, il le dit de la manière la plus sincère qui soit, il est honnête. Mais dans cette première version du texte qu'il donne, on s'aperçoit que quelque chose ne va pas. Quelque chose ne va pas. Quelque chose manque à être dit ou fait. On ne sait pas complètement ce que c'est. On va chercher à rendre l'acteur plus vivant. La vie de l'acteur, c'est le signe qu'il a frappé juste, qu'il a touché juste, qu'il a délivrer tout le réservoir de possibilités d'un texte. Au début, on ne le trouve pas. Alors, on se met tout simplement à penser. On se dit, mais peut-être qu'on est allé trop vite. Peut-être qu'on a dit la phrase de manière un peu trop mécanique ou habituelle. Alors, regardons ce qu'il y a dans cette phrase. Et on se met à examiner les mots. Moi, j'ai des techniques, je demande aux acteurs, réfléchis à tel mot, ou fais une pause après tel mot. Et à partir de ce moment-là, bon, on ralentit hein, le train du théâtre et de la pensée. À partir de ce moment-là, l'acteur se met à penser ce qu'il dit. Donc, si par exemple, dans une phrase, il y a « peuple », ce mot par exemple, soudain l'acteur se met à se demander qu'est-ce que c'est qu'un peuple pour lui. Et alors il pense au peuple qu'il a admiré, au peuple qu'il a sous les yeux. Il se demande si la France est encore un peuple. Il se demande quelles conséquences une telle notion aurait pour sa vie et pour les gens qu'il aime, etc. Et à ce moment-là, il se met à dire le texte autrement. Il subjective le texte, il se l'approprie. Et ça arrive souvent qu'à ces moments-là, les acteurs se mettent à pleurer, ou soient illuminés comme ça par une joie très intense ou beaucoup d'autres affects. alors là, ce qu'on voit sur scène, c'est autre chose que ce qu'on avait vu au début. Là, on voit que la plénitude de la vie a été délivrée par le travail. L'acteur est beau, il est au maximum de sa capacité expressive. Hein, et on le sait, on ne peut que savoir que c'est vrai, que c'est ça qu'il fallait.
Pourrait-on dire que vous vous refusez à faire un théâtre qui ferait comme si de rien n'était ? Qu'il y a chez vous le refus d'un théâtre de la satisfaction sans lendemain, d'un théâtre attribut social, alibi culturel, moral ou politique ? Est-ce cela ?
Alors, je vous remercie de le dire comme ça, parce que ce sont des expressions fortes. Oui, je dirais que au départ, dans les moments polémiques que j'ai rencontrés à Aubervilliers, à Avignon, et puis d'autres fois, il me semble que la ligne de séparation, c'est qu'en effet, il y a des gens qui vont au théâtre pour y entendre ce qu'ils savent déjà. Parce que ça les réconforte, en fait. Ça leur fait du bien, ça les console, enfin. Et puis, il y a des gens comme moi qui sont très fidèles, ben, justement, à Meyerhold, à Cantor, enfin, qui sont persuadés qu'il faut que le théâtre propose quelque chose qui n'est pas encore là. Alors, ce sont des théâtres beaucoup plus troublants, qui proposent évidemment des formes un peu insolites ou des manières d'être humain, pas tout à fait naturel. Donc moi, je pratique un théâtre antinaturaliste, théâtre de la formalisation, comme on dit, ben, justement, comme le pratiquait Vitesse ou Claude Régis. Enfin, donc un théâtre où le jeu de l'acteur se voit, on voit que l'acteur travaille, il demande au public d'assister à son travail, on voit la facticité, l'effort que ça demande, et en même temps, ça nous transporte dans des situations émotionnelles inédites.
Et comment cela se traduit-il dans vos spectacles ? De quelles conséquences est-ce sur la mise en scène, les décors, les costumes, la durée même des spectacles ?
Les spectacles sont assez longs parce qu'en effet, sont longs parce que pour moi, la beauté du théâtre, c'est la beauté d'une veillée, d'une grande traversée des questions portées par les acteurs. C'est un théâtre qui a souvent été qualifié de fraternel parce que, en effet, la salle est allumée, les acteurs sont tournés vers le public et parlent vers le public comme si leur possibilité, leur capacité à dire le texte était là, était rendue possible parce que les spectateurs sont là. Enfin, c'est une manière très belle que les acteurs ont de dire « Je ne pourrais pas être aussi sincère, je ne pourrais pas être aussi précis si vous n'étiez pas là. C'est parce que vous m'écoutez que vous me permettez de comprendre quelle portée pour l'humanité a le théâtre. » Donc c'est un théâtre tourné vers le public et qui est un théâtre des aveux, de la confidence. Meyerhold disait que au théâtre, il n'y a pas de public d'abord, que c'est la représentation qui construit le public. Et c'est vrai, et c'est pour ça qu'il est assez beau, c'est pas grave qu'une salle puisse se diviser, que certains partent, c'est pas grave, parce que ceux qui restent prononcent qu'ils sont devenus le public de cette représentation et qu'ils veulent être là, qu'ils acceptent ce que ça leur a fait. Et souvent, à la fin, nous, on a des salles bouleversées parce qu'elles ont le sentiment, en effet, d'avoir été produites, transformées par le travail, en fait.
Vous parlez du public. Et vous, spectatrice de théâtre, quels sont vos souvenirs les plus marquants ? Vous avez évoqué le choc Cantor durant vos années à Normale Sup, mais quels sont les metteurs en scène qui restent pour vous des références ?
Antoine Vitesse, dont j'ai vu quelques spectacles à la fin de sa vie. J'aime énormément, j'ai beaucoup aimé Warlikowski à ses débuts, Marthe Allaire aussi, et j'ai aimé les maîtres français aussi, j'ai aimé certains spectacles de Jacques Lassalle, j'ai aimé les spectacles de Brigitte Jacques qui a dirigé le théâtre de la Commune avant moi, et puis progressivement aussi j'ai une grande passion pour les chorégraphes, bon Jérôme Bel, que j'aime par-dessus tous, Maggie Marin, qui est la plus grande d'entre nous, je dis souvent, Pina Bausch, voilà. Et quand j'étais jeune aussi, j'ai un souvenir comme ça d'avoir vu Marcello Mastroianni sur scène. C'était peut-être pas un spectacle inoubliable, mais lui était inoubliable. Et donc le théâtre aussi, pour moi, est d'abord passé par l'admiration pour des acteurs. Je me souviens d'avoir vu à la télé Vittorio Gassman qui faisait un spectacle au Festival d'Avignon. Des choses comme ça, qui sont éblouissantes en fait. Et puis il y a une légende pour nous tous, c'est Gruber, le metteur en scène allemand Gruber, dont je n'ai vu que deux spectacles, pour ce qui est de moi, mais dont j'ai vu beaucoup de spectacles en vidéo, en fait, et puis Régie.
Pour Gruber, justement, le metteur en scène est un homme qui parle de la beauté. Vous dites, Marie-Josée Malice, moi, je lis la beauté à la question de la justice.
Oui. Quand un acteur trouve une beauté, hein, qui n'appartient qu'à lui d'ailleurs, hein. C'est une des singularités du théâtre, c'est que l'acteur va faire quelque chose d'extraordinaire sur un texte et qui est le fruit de sa propre pensée sur ce texte. Et c'est une chose déterminante, on se dit ça ne pourrait pas être autrement, c'est tellement juste que ça ne peut être que ça. Mais l'instant d'après, si un autre acteur venait et faisait le même travail sur le même texte, il délivrerait une beauté comparable, mais qui ne serait pas la même. Mais quand un acteur fait ça, c'est parce que tout d'un coup, il a rendu justice à quelque chose. Par exemple, si on reprend l'exemple du peuple, l'acteur qui va penser le peuple, tout d'un coup, évidemment, qui se met à le penser très sincèrement, se mettant à le penser, va rendre justice à quelque chose du peuple qui sans doute a été souvent humilié, bafoué. C'est un exemple facile avec le peuple. Mais on voit que l'acteur construit l'hospitalité maximale pour un mot et fait rentrer tous ceux qui ont été exclus de ce mot, tous ceux qui ont été les victimes ou les humiliés de ce mot, et les fait rentrer de nouveau dans la maison de l'humanité. Alors, pour des mots comme ça, c'est simple à comprendre, mais ça peut être aussi des mots très négatifs, des mots très douloureux. Et l'acteur prononce qu'il y a une humanité par-delà le bien et le mal, et qu'il faut donc qu'on soit extraordinairement généreux, attentif, hospitalier, que tout est humanité. Et ça, pour moi, c'est rendre justice. D'ailleurs, c'est souvent une consigne que je donne. Je donne... comme consigne, à quoi veux-tu rendre justice? Et ça, c'est une consigne qui marche pratiquement toujours, en fait.
Par votre manière de vivre le théâtre, vous êtes, Marie-Josée Malice, minoritaire. C'est quelque chose qui vous paraît inévitable quand on cherche une voie vers d'autres relations, au théâtre, en l'occurrence, à la création, au spectacle. Mais minoritaire ou majoritaire, n'y a-t-il pas le même danger de trouver une forme de confort là où on est, même si le confort des minoritaires sera toujours moins confortable?
Oui, je suis d'accord. D'ailleurs, il faut que j'arrête de dire des choses pareilles, que je suis minoritaire, que je vide les salles, etc. Parce que je l'ai d'abord dit par honnêteté. Mais maintenant, en effet, je pense que c'est devenu une coquetterie. Qui plus est, c'est pas tout à fait vrai. C'est-à-dire que je pense, en effet, que voilà, aujourd'hui, c'est normal d'être minoritaire quand on cherche, aujourd'hui, comme toujours. En politique aussi, c'est vrai. Il faut pas avoir peur d'être minoritaire, en fait. Hein. Mais somme toute... quand même, en France, on n'est pas complètement minoritaire, au sens où les œuvres sont plutôt assez bien protégées, financées. Et moi, je vois aussi qu'il y a beaucoup de jeunes qui m'aiment bien, des jeunes artistes. Bon, j'ai vieilli, hein, donc maintenant je suis en position... j'ai été longtemps en position de grande sœur, maintenant je suis en position plutôt maternelle. Et beaucoup de jeunes artistes viennent vers moi, en disant qu'ils s'appuient sur moi. Alors, je peux pas dire que je sois minoritaire dès lors, au sens où si on aide à encourager d'autres que soi, non, on n'est pas nombreux, mais on construit quelque chose ensemble, oui.
Ne vous dites-vous pas parfois qu'il y a peut-être chez vous quelque chose d'excessivement sacrificiel dans la manière dont vous abordez le théâtre, même si cette notion de sacrifice renvoie peut-être aux origines de la tragédie?
Alors, moi, je ne cherche pas du tout le sacrifice, au sens où je pense que je fais un théâtre très doux, très amical. Quand d'ailleurs on parle de sacrifice dans notre théâtre, c'est très très rare, enfin, c'est très précis. On se dit à ce moment-là, maintenant on va faire un petit sacrifice, mais c'est très précis. Donc non, je crois simplement que comme c'est un théâtre de la pensée, il est mal reçu par certains qui ne sont plus habitués à penser, en fait, qui ne sont plus habitués à ce qu'on leur demande de prendre le temps d'examiner des questions. Alors, le fait que ce soit un théâtre comme ça, bon, finalement positionné sur un créneau qui n'est plus si fréquent, Parce que le théâtre est plus maintenant un théâtre de l'image, de la sensation, etc. Le fait qu'il soit comme ça positionné en position minoritaire ou sur un créneau très précis peut donner la sensation qu'on prend sur nous pour faire quelque chose qui prend beaucoup de risques. Mais moi, quand je crée, non, je ne le vis pas comme ça. Je le vis, je me sens très vivante, très heureuse des trouvailles que j'ai. Et je suis pas du tout consciente que ça va pouvoir créer du conflit ou de la séparation. Pas du tout.
Marie-Josée Malice, l'année 2020 aura été pour vous celle du renouvellement de votre bail à la tête du théâtre de la commune d'Aubervilliers. Quel bilan faites-vous des 6 années déjà passées à la tête de la commune ?
Je dirais que dans ce théâtre, j'ai vécu des désastres et de la grâce continuellement. Et malgré tout, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de théâtre où il y a de la grâce. Donc c'est toujours, tout a été toujours très difficile. Et il y avait toujours des moments comme ça qui étaient de l'ordre de la grâce, des miracles. Toujours les pièces d'actualité qui nous ont permis de régulariser des sans-papiers. Richard Maxwell qui vient de New York et qui dit « je veux plus repartir », l'équipe du théâtre de la commune qui, traversant beaucoup d'adversités, en même temps décide de faire des fêtes, d'organiser une hospitalité continuelle pour la population, des gens qu'on a hébergés, des squatteurs qui avaient été expulsés. Des choses extraordinaires continuellement, la grande amitié avec les artistes dont j'ai parlé, au point que on voudrait que notre 3e mandat soit un mandat collégial. Voilà.
Ce mandat sera votre dernier, Marie-Josée Malice ?
Oui, c'est le dernier, oui.
Et après la commune, près d'ici ou loin d'ici, votre histoire continuera. Sera-t-elle toujours liée au théâtre ?
Je ne sais pas. Mais ça a toujours été une chance, je crois. La possibilité que je me suis donnée de penser que je pourrais arrêter de faire du théâtre. Que si les conditions dans lesquelles je devais faire le théâtre devenaient trop défigurées, trop abaissées, trop incompréhensibles ou difficiles à vivre pour moi, je préférerais arrêter de faire du théâtre. Donc j'ai cette liberté dans un coin de ma tête. Je me dis, j'aime le théâtre par-dessus tout, j'aime mes amis. Mais j'ai fait du théâtre dans ma vie, je peux le dire, j'ai fait du grand théâtre dans ma vie. Et si je l'ai fait, c'est parce qu'en effet, j'ai voulu, je me suis battue pour le faire dans certaines conditions. Et voilà, donc je pourrais arrêter.
Et qu'ont changé dans votre manière de voir le théâtre, de le penser, ces 6 années que vous avez passées à la commune ?
6 années m'ont radicalisée. Comme je vous l'ai dit, comme je n'avais pas grand-chose à perdre... Et j'ai décidé, alors là, de faire tout ce que j'estimais devoir faire. Donc moi, j'ai évidemment une passion pour mon art, pour ma discipline, et il me semble qu'il faut que j'aide mon art à aller plus loin. Donc je prends en effet tous les chemins les plus ardents, les plus audacieux. Mais pour ma joie, hein, pas gratuitement, ou je sais pas quoi, pour faire la maline, hein, pour ma joie. Donc chaque spectacle a été une aventure de théâtre. Très forte. Chaque spectacle comportait une dimension absolutiste. Donc je dirais que ces 6 années, elles ont radicalisé mon art. Et en même temps, elles m'ont laissé presque avec le désir, là, maintenant, de revenir comme dans la Bethléem du théâtre et de faire du théâtre amateur. J'ai envie d'un théâtre le plus enfantin, le plus élémentaire, le plus doux, le plus privé de pouvoir qui soit.
Et pour vous, pour votre vie, pour la part de vous qui n'appartient pas au théâtre, des années de la Levantina, votre troupe, jusqu'à celle de la commune, qu'avez-vous jusqu'à présent appris du théâtre ?
Ce que dit Hölderlin, c'est-à-dire il faut passer sa vie, il en faudrait beaucoup, beaucoup, pour réellement apprendre à regarder ce qu'on a sous les yeux et regarder toutes les possibilités qu'offrent les gens qui sont devant nous. Mais souvent, en fait, on les instrumentalise, en fait. Souvent, on veut faire passer en force notre propre désir sur les gens. Et le théâtre, c'est une grande école de la patience, évidemment, de l'altérité. Parce qu'on est là et on regarde celui qui est devant soi, l'acteur, et on se demande, mais de quel chemin est-il porteur ? qu'est-ce qui se passe, quelles sont les routes de vie qu'il y a dans son esprit, dans son corps, qu'est-ce qui se passe dans ses yeux en ce moment, qu'est-ce qu'il est en train de me dire. Et c'est en descendant, en plongeant de plus en plus comme ça dans une espèce de d'écoute minimaliste en fait, et de regard très très proche, qu'on finit par découvrir l'infini des gens. Et donc, moi, du théâtre, j'apprends à domestiquer, je dirais, ma trop grande force. Je veux toujours que les choses aillent vite et ressemblent aux solutions que je crois bonnes pour tous. Et maintenant, par la force des choses, mais aussi maintenant, je le veux, par la grâce du théâtre aussi, je crois que j'apprends à me laisser conduire, à me laisser inspirer par ce qui n'est pas moi.
Il y a des mots que Chris Marker faisait revenir plusieurs fois dans la voix off qui accompagnait l'un de ses films. Je crois que c'est dans Le fond de l'air est rouge, une phrase qu'il répétait comme ça, comme un leitmotiv, « On ne sait jamais ce qu'on filme », pour dire tout simplement « On croit avoir filmé quelque chose, mais en réalité, on a toujours filmé autre chose ». Un metteur en scène de théâtre peut-il dire, a-t-il même le droit de dire « On ne sait jamais ce que l'on met en scène ».
Oui et non, c'est pas tout à fait vrai. Parce que l'acteur, quand il joue devant le public, est exposé à un péril maximal. Hein, c'est seconde après seconde qu'il doit tenir la scène, en fait. Or, je pense que c'est très facile pour vous, pour tous ceux qui nous écoutent, d'imaginer à quel point c'est paniquant de tenir la scène si on veut faire quelque chose de vrai, hein, de sincère. Donc, pour aider l'acteur à traverser ça, on l'aide beaucoup. On lui donne beaucoup de consignes. Il a beaucoup de rendez-vous très très précis à honorer. Et c'est pas qu'ils doivent devenir le serviteur de ces rendez-vous, c'est que juste ces rendez-vous, ces consignes, le fait qu'il doit s'arrêter là, respirer comme ça, ça l'aide à être encore plus vrai. Ça lui donne le temps, l'espace, le poids dont il a besoin pour être lui-même. Alors, tout ça c'est très écrit. Très écrit. Et ça, on sait ce que c'est. En revanche, finalement, la portée, la manière dont les gens vont le subjectiver, la manière dont les gens vont être à leur tour mis en mouvement, émus par ça, et même ce que ça va leur donner à penser, ça évidemment, on ne le maîtrise pas complètement. Et c'est tant mieux. Chacun au théâtre devient créateur. Le public contribue par sa propre perception à la pièce, en fait. Et ça, on ne sait pas ce que c'est. On essaye de l'orienter. On prépare quelque chose qui soit propice, un peu comme les anciens, quoi. On met en place tous les auspices favorables. Mais ce que le public pourra faire, c'est son génie propre, en fait.
En croyant au théâtre.
En croyant au théâtre.
Marie-Josée Malis, merci infiniment de nous avoir accueillis chez vous toute cette semaine.
Merci à vous.
Fin de cette rencontre d'Alban Penaranda avec Marie-Josée Malis. À voix nue, réalisation Guillaume Baldi, prise de son Yann Fressy, attaché de production Daphné Abgral, coordination Sandrine Trainer. À voix nue s'écoute en ligne et ce podcast sur franceculture.fr.